Le Monde, selon Raphaël Antoven, le mardi. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marc.
Nous sommes en pleine campagne électorale. Voici que les gens échangent, se battent, se disputent. Vous voulez-vous rétablir la notion de dialogue, l'art du dialogue avec Montaigne à l'appui?
Eh oui, l'art du dialogue. Ben, c'est-à-dire qu'on va rentrer en campagne, on est déjà en campagne. Hein, et donc, c'est une période où nous faisons traditionnellement grand cas du débat. Indûment, à mon avis, puisque je doute qu'on ait vraiment des débats, mais on aura plutôt des combats dans lesquels l'enjeu ne sera pas tant d'avoir raison que d'avoir raison de l'autre. Quand les débatteurs sont les représentants, finalement, d'un corps électoral qui leur demande de tenir sur tous les sujets le discours qu'ils s'attendent à entendre, eh bien, nous n'avons pas de débat, nous avons des monologues qui se juxtaposent avec des opinions irréconciliables et des gens qui attendent que l'autre ait fini de parler pour prendre la parole, avec à la fin le plus convaincant, le plus éloquent, voire le mieux habillé qui l'emporte. Alors, comment dialoguer en démocratie? C'est le paradoxe de la démocratie. On sanctifie le débat, il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on remplace l'affrontement stérile des opinions par la construction d'un objet commun? Eh bien, en lisant Montaigne, en relisant Montaigne. Et moi, je suis un peu nostalgique, mon cher Marc, je vous l'avoue, de cette photo de François Mitterrand. La photo de François Mitterrand, président, qui lisait les essais de Montaigne. Écoutez, non, la photo qui était dans les mairies, il lisait Montaigne.
Ah non, le livre qu'il a à la main, sur
mais
la photo
bien
officielle.
Sûr, le livre sur la photo officielle.
De Gisèle Freund, je crois,
mais
la photo.
C'est vous qui le dites, mais il lisait les essais de Montaigne.
D'accord.
Et peut-être... François Mitterrand lisait-il le chapitre 8 du livre 3 des essais de l'art de conférer sur l'art de la conversation, dans lequel Montaigne écrit notamment ceci. « Les contradictions des jugements ne me blessent ni ne m'émeuvent. Elles m'éveillent seulement et me mettent en action. Nous n'aimons pas la rectification de nos opinions alors qu'il faudrait au contraire s'y prêter et s'y offrir, notamment quand elle vient sous forme de conversation, non de leçon magistrale. Il faut durcir notre oui contre la mollesse du son conventionnel des paroles. J'aime une société et une familiarité forte et virile, une amitié qui trouve son plaisir dans la rudesse et la vigueur de son commerce, comme l'amour le fait dans les morsures et les égratignures sanglantes. J'aimerais, moi, que François Hollande, par exemple, pour ne pas le citer, lu un tel passage. Parce que, comprenez, au lieu de dire aux Verts que le Parti Socialiste adopte leurs décisions pour ensuite effacer, en loose day, comme on dit, le paragraphe du programme qui les concerne, avant de le remettre pour déclarer ensuite qu'ils ne vont pas appliquer la totalité de l'accord tout en affichant un discours fraternel dont aucun électeur n'est dupe, moi j'aurais aimé que le candidat socialiste affiche carrément son désaccord avec les Verts, qu'il ne masque aucun des désaccords qui... Du coup, parce qu'on les masque, saute aux yeux. Ce que Montaigne nous enseigne, c'est que la réconciliation est au prix d'une engueulade franche, d'un échange viril entre amis, comme l'avait dit Védrine en parlant des Américains quand il était au Quai d'Orsay. Mais continuons Montaigne. Livre 3, chapitre 8. « Quand on me contredit, on éveille mon attention, mais non ma colère. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité devrait être la cause commune de l'un et de l'autre. » Imaginez, Marc, un débat dans l'entre-deux-tours, Hollande-Sarkozy, on va se mettre dans ce cas de figure-là. Imaginez l'un des deux qui dit à l'autre « Vous avez raison ». Imaginez François Hollande dire à Nicolas Sarkozy « Vous avez raison, Monsieur le Président ». Nicolas Sarkozy dire « Ah, Monsieur le candidat, sur ce coup-là, vous m'avez convaincu, ce serait magnifique, ce serait splendide, l'un et l'autre s'élèveraient à faire cet exercice ». Mais non, les candidats sont prisonniers du dogme qu'ils incarnent, d'idées au fond trop faibles pour accepter d'être contredite. La seule façon d'être au-dessus de la mêlée, c'est de lire Montaigne, c'est de ne pas être seulement le porte-parole d'un camp. Alors, on continue encore avec Montaigne. « J'aime, dit-il, j'aime à favoriser et à encourager la liberté de ceux qui me font des critiques par ma facilité à céder même à mes dépens. Toutefois, ajoute-t-il, il est difficile d'attirer à cela les hommes de mon temps. Ils n'ont pas le courage de critiquer les autres parce qu'ils n'ont pas le courage de supporter de l'être et ils parlent toujours avec dissimulation les uns des autres. » Vous vous rendez compte? Il parle des hommes de son temps.
Oui, oui.
Mais on est au XVIe siècle.
Oui,
mais vous vous rendez compte?
On est totalement en 2011 également.
Mais c'est la magie de la pensée. Ça prouve, un, que l'humanité n'a pas fait de progrès. Deux, que les philosophes sont toujours pertinents. Trois, que quand on est inactuel, on est de plein pied dans le présent. Montaigne, que dit Montaigne?
Moi, j'ai envie de vous dire comment être Montaigne. Parce qu'on aimerait avoir quand même arrivé à cela, en le lisant.
Montaigne a fait de la politique. Montaigne, c'est intéressant. Montaigne a fait de la politique. À 38 ans, il se retire dans le sein des muses et sur le molle cheveu de son ignorance érudite, il est passé par la politique justement pour ça. Et quand il faisait de la politique, il essayait de concilier des opinions extraordinairement contradictoires. Il faisait lui-même ce travail quand il était à Périgueux ou à Bordeaux. Et ici, ce qui est fabuleux, c'est qu'il mélange la véhémence dans une discussion. C'est important de s'engueuler quand on discute. Et l'aptitude à reconnaître qu'on se trompe, comme si les deux allaient ensemble. Or, que font les candidats? Un, ils polissent les angles. Deux, ils se feraient couper la langue plutôt que d'admettre qu'il se trompe. Et ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut lire Montaigne et l'apprendre par cœur. Et puis, je vais finir sur un passage que j'aime au-delà de tout. On est toujours dans le chapitre 8 du livre 3 des Essais, que j'aimerais que les candidats lisent. « Il n'y a rien qui nous rende aussi sensibles à la contradiction que l'opinion que nous avons de notre propre supériorité et que notre dédain de l'adversaire. » Et Montaigne continue. « Je cherche à la vérité plus la fréquentation de ceux qui me malmènent que de ceux qui me craignent. » Et écoutez ça, Marc. « Je me sens bien plus fier de la victoire que je remporte sur moi quand, dans l'ardeur même du combat, je m'oblige à plier sous la force du raisonnement de mon adversaire, que je ne me sens gré de la victoire que je remporte sur lui grâce à sa faiblesse. »
Ouais, ça va être difficile à suivre comme exemple, mais il faut y arriver, non sans doute.
C'est difficile à suivre en campagne électorale, mais on pourrait s'en servir comme d'un idéal régulateur, après tout. Imaginez que les candidats fassent cet effort.
Dernier petit mot, on le lit dans quelle édition?
Vous avez raison de le dire. Alors, écoutez, les essais de Montaigne...
Est-ce qu'il faut être puriste ou pas?
Je ne crois pas.
Déculpabilisez-nous.
Ça n'engage ou ne désengage que moi. Je recommande vivement, toujours, la lecture de Montaigne en français moderne, dans la traduction, parce que c'est une traduction d'André Lanly chez Gallimard dans la belle collection Quarto.
Le Monde selon Raphaël Antoven à réécouter sur franceculture.fr à mardi prochain. Raphaël, je crois autour de Nietzsche sur Internet.
Oui, on va parler de Nietzsche, autre inactuel.